and mend each other's hearts.
Scream Fest! Scream Fest! Scream Fest! Scream Fest!
Hanno unissant les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltraitances. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On non la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est les Régor, chez chaque semaine, tous les lundis, donc de 19h à 20h sur Radio Primitive à Reims, chaque semaine aussi sur l'école Garrigue à Montpellier et Canal Sud à Toulouse. Les Régor, une parole anarchiste communiste. Vous notez bien de quoi on va parler ce soir, évidemment, avec ce qui se passe dans l'actualité. On tient à rappeler d'ailleurs pour les auditeurs de Montpellier, de Toulouse, que notre émission a lieu ce soir, donc le lundi 6 novembre, et que on ne sait pas du tout dans les prochains jours qu'est-ce qui va exactement se passer. On va revenir donc de fait sur ce qui s'est passé à Clichy-sous-Bois. Avant de parler de Clichy-sous-Bois, on vous a fait un petit montage là d'un certain Sarkozy. Alors on va peut-être écouter Sarkozy.
Nettoyer au propre comme au figuré la cité des 4000.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. Bon, on va vous en débarrasser.
On va faire que ces quartiers puissent vivre, que les gens qui travaillent et qui se lèvent tôt le matin puissent vivre sans avoir la vie empoisonnée par les voyous, par les trafiquants et par tout un tas de gens qui n'ont rien à faire ici. Alors ben les mesures, c'est très simple. Je suis venu voir les équipes de CRS qui vont maintenant s'occuper des quartiers les plus difficiles. Et par ailleurs, les renseignements généraux vont faire maintenant des enquêtes sur les trafiquants et les trafics.
Alors, de quoi, quand est-ce que c'était? C'est la première qui dure très peu de temps.
Alors, la première, c'était la fameuse carchérisation. On va carchériser. Alors, ça, dans les archives sonores, j'ai pas réussi à le retrouver. On trouve la suite de ce qui était dans la foulée, mais le carchérisé a été enlevé. C'était à la Courneuve. C'était en juin 2005, suite à la mort l'assassinat d'un jeune dans la cité des 4000. Et puis la deuxième, c'était en octobre 2005, c'était lors de la visite de Sarkozy à Argenteuil.
Alors à noter tout de même que cette visite était particulière dans ce sens qu'il a reçu un très mauvais accueil, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a dû d'ailleurs plus ou moins se partir, hein, précipitamment, puisqu'il était sur une espèce d'esplanade. Des esplanades en béton où l'esplanade en question est complètement engloutie dans des immeubles de 20, 30 ou 40 étages. Et effectivement, il y a des tas de gens qui ont balancé des tas de choses sur la gueule à ce cher Sarkozy. Alors, faut dire aussi que, et nous, ça nous a fait penser à un certain Sharon sur l'esplanade des mosquées avec la fameuse provocation qui avait d'ailleurs entraîné la deuxième intifada. Ben voilà, ça a entraîné effectivement une intifada. Pas eu que ça, bien évidemment, il y a eu les événements de Clichy. Alors, il serait bien, et on l'a fait pour vous, de revenir un petit peu sur bien le point de départ de tout ça, finalement. C'était donc le 27 octobre, on apprend que deux jeunes sont morts électrocutés dans une centrale EDF, qu'un troisième est grièvement blessé. Ce troisième, d'ailleurs... était un jeune sans papier en France, et on apprend aussi que effectivement il y a des flics qui sont quelque part dans le coup, comme d'habitude, dira des tas de jeunes des cités, quand il y a un truc, une catastrophe comme ça, c'est sûr qu'il y a des flics qui sont certainement pour quelque chose. Alors on va, avant de vous lancer un témoignage sur de quelqu'un, d'un jeune qui était présent, je vais vous donner toutes les versions qui ont été données par Sarkozy et consorts. Le vendredi, donc, c'était le lendemain, en début de matinée, Sarkozy, lors d'une tentative de cambriolage, lorsque la police est arrivée, un certain nombre de jeunes sont partis en courant. Trois d'entre eux, qui n'étaient pas poursuivis physiquement par la police, sont allés se cacher en escaladant un mur d'enceinte de 3 mètres de haut qui abritait un transformateur. Ça, c'était en début de matinée. En fin de matinée, De Villepin, Premier ministre. Il s'agit, selon les indications qui m'ont été données, de cambrioleurs qui étaient à l'œuvre. D'accord ? On apprendra bien évidemment qu'après, il n'y a jamais eu de cambriolage de quoi que ce soit. Vendredi, en fin de matinée, toujours, un certain Bonté, secrétaire général de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Il n'y a pas eu de course-poursuite et les policiers n'étaient pas aux trousses de jeunes avant qu'ils n'arrivent au transformateur. Il n'y a également aucun lien établi entre un contrôle policier survenu plus tôt à propos d'un vol de chantier. On en est donc toujours le vendredi. Vendredi après-midi, Sarkozy. Aucun policier ne poursuivait ces jeunes gens. Il n'y a aucune polémique à entretenir. Six jeunes gens avaient déjà été interpellés après avoir dégradé une cabane de chantier. On apprendra plus tard que la cabane de chantier n'a jamais existé, qu'il y a effectivement un chantier où est entreposé tout simplement des échafaudages complètement rouillés. Samedi après-midi, un certain François Molin, procureur de la République de Bobigny. Les trois adolescents ont pris la fuite à la vue d'un contrôle d'identité à Livry-Gargan. Ils se sont mis à courir parce que d'autres jeunes couraient. Ils sont cloches, hein, ils ont vu des jeunes courir. À chaque fois que vous voyez des gens courir, vous courez aussi, c'est évident. Ils se sont cru poursuivis alors qu'ils ne l'étaient pas. Voilà, donc, jusqu'au samedi après-midi, tout ce qui était dit au niveau de l'État, parce que c'est l'État qui dit ça. Hein. C'est quand même l'État, procureur de la République, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, c'est quand même le gratin de l'État qui ment. Ça continue. Nicolas Sarkozy, dimanche soir, sur TF1. Quand ce drame s'est produit, les policiers étaient rentrés au commissariat avec les autres interpellés depuis 20 minutes. La centrale est à environ 1 km de l'interpellation. Depuis au moins 2 jours, dans la presse, suffisamment informée, je prends le journal Libération, on sait que l'un des jeunes, le dernier qui s'est fait arrêter, était non pas à 1 km, mais à 50 mètres seulement. Du drame. Ensuite, l'interpellation des 6 adolescents s'est déroulée en 3 temps et 3 lieux. La dernière de ces interpellations a eu lieu à une 50aine de mètres, c'est ce que je vous disais, contrairement à ce qu'a fait le ministre de l'Intérieur. Ça a donc été mensonge sur mensonge de la part de l'État. Ça a continué d'ailleurs le dimanche soir. Rappelez-vous, on en est donc le dimanche 30 octobre, il y a une grenade lacrymogène qui est lancée dans une mosquée, où il y a tout de même des centaines de gens qui sont là, les gens paniquent, c'est vraiment le truc abominable qui se passe. À signaler que là maintenant, il semblerait qu'il y a du son là-dessus, et j'espère qu'on en aura un jour, les flics ont eu des insultes racistes, sexistes, les femmes qui sortaient épouvantées, eh bien, ils se faisaient injurier de pute, de salope, quant aux jeunes mâles, cette fois-ci, alors eux, c'était toutes les insultes racistes qu'on connaît très bien. Eh bien, sachez qu'au départ, le dimanche soir, il a été dit clairement que cette grenade, ça n'avait pas du tout été les flics qui l'avaient lancée, mais c'était les manifestants. Il a fallu qu'ils reculent après, quand effectivement, ils ont retrouvé tout simplement la grenade vide et que la grenade vide était bien et bel et bien de la police. Alors maintenant, peut-être, ça c'était donc les réactions de l'État par rapport à ce qui a deux morts, pour le rappeler tout de même, deux morts et un qui est grièvement blessé. Maintenant, on va écouter un témoignage d'un des jeunes qui s'est fait interpeller.
Vous saviez ce qui s'était vraiment passé ce fameux jeudi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de bêtises qui ont été dites à la télé ou dans les radios, etc. Oui, est-ce qu'il y a eu un vol ou pas, jeudi?
Il n'y a pas eu de vol.
C'est juste un contrôle d'identité qui s'est mal passé, c'est tout.
Mais il a eu lieu, le contrôle d'identité?
Ouais, ouais. Six qui sont été interpellés, et le reste est sauvé. Et il y en a deux qui sont morts et un qui est blessé, c'est tout.
Comment tu sais tout ça?
J'y étais.
Lui, en fait, il était avec les trois autres personnes.
Vous étiez neuf à l'origine, c'est ça?
Six.
Qu'est-ce que vous étiez en train de faire?
On jouait au foot.
Et là, les flics arrivent?
Arrivent.
On marchait, ils sont interpellés. Et après, tout le monde a commencé à courir sur son côté.
Pourquoi vous avez couru?
C'était l'heure de manger, on fait le ramadan. Ouais. On n'avait pas envie de faire une heure au poste.
Mais pourquoi, à chaque fois qu'il y a contrôle d'identité, il y a garde à vue?
Ah oui.
Ah oui, pourquoi?
T'as pas ta pièce d'identité, t'embarques.
Pour ça, maintenant, à partir de maintenant, dès qu'on les voit en cours, on ne cherche pas à comprendre, même si on n'a rien fait.
Et là, ils avaient dit clairement qu'ils voulaient contrôler votre identité?
Ouais.
Donc là, tout le monde s'est mis à courir. Il y en a trois ou quatre qui ont été rattrapés, combien?
Six.
Six qui ont été rattrapés?
Ouais.
Dont vous deux?
Ouais.
Il y avait combien de flics ce jour-là?
Quatre voitures, ils étaient au moins.
Quatre voitures déjà, juste pour six personnes.
Ouais.
Après, de l'autre côté, on n'a pas vu.
Et donc, il y a un autre groupe avec Ziad?
Ziad, Bouna et Metin. Qu'ils ont sauté dans la centrale. Et Ziad et Bouna, ils sont morts et Metin, il est à l'hôpital.
Mais il s'est aussi pris un coup d'électricité, quoi.
Voilà, il est brûlé. Il a des brûlures de porte.
Bon, on vous a amené au commissariat et on vous a relâché tout de suite?
Oui, il m'a reprené après.
Pourquoi ils sont allés se réfugier là-bas? Ils savaient pas que c'était dangereux, vous pensez?
Non, ils savaient pas. Vous savez, quand il y a des flics derrière vous, vous pensez pas ce qu'il y a devant. Vous sautez tout ce qui bouge. Hein.
Oui.
Ah, moi, je serais à leur place, j'aurais pas pensé, j'aurais sauté.
On dit au moins que t'avances, c'est bon.
Et ils ont pensé juste à se cacher.
Oui.
Ils savaient pas où ils étaient.
Et là, aujourd'hui, vous dites que vous auriez pu être à leur place?
Ouais.
Ouais.
Pour un contrôle d'identité, ils sont morts.
C'est pas directement la faute des flics, non?
Pour nous aussi.
C'est pas les flics qui leur ont mis un courant d'électricité dessus?
Non. Ouais, mais c'est eux qui les ont fait courir. Qui a fait courir? Qui les a fait courir? C'est bien les flics. Les flics qui se mettent à courir pour un contrôle d'identité.
Les flics disent qu'il n'y a pas eu de course, qu'il n'y a pas eu de poursuite.
Ouais, c'est ça. C'est qui a avalé? Bref, s'ils n'ont pas couru, comment ils ont fait pour nous attraper? Nous, on a bien couru, comment ils ont fait pour nous attraper? Ils ont bien couru derrière nous. Ils mentent.
Qui a prévenu après les pompiers?
C'est quel hôpital?
Si lui
leur aurait rien dit, personne ne saurait qu'ils seront là-bas.
En fait, là, qui est à l'hôpital qui est brûlé, que s'ils ne seraient pas ressortis de la centrale, ils seraient partis prévenir des grands et leur dire qu'il y a Ziad et Bouna dans la centrale qui se sont fait électrocuter. Eh ben, si ça se trouve là, à cette heure-ci, ils seraient encore dedans.
Vous avez quel âge?
16.
Maintenant, vous vous dites quoi la prochaine fois que vous verrez des flics qui veulent faire un contrôle d'identité?
On court.
Toujours?
Ouais. Toujours.
Bon, on va peut-être après vous faire entendre, mais là, je crois que Jean-Noël, tu as peut-être
des réactions.
Oui,
juste une précision par rapport au fait qu'il y a eu une enquête auprès des flics qui a quand même été conduite. Alors, je sais pas qui l'a conduite, si c'est la police des polices, enfin, peu importe.
C'est la police, ouais.
En tout cas, il s'est avéré qu'il y a des écoutes, il y a des enregistrements de messages téléphoniques qui ont été donnés par des chefs de police, des chefs de corps. Et notamment, il y en a un qui est assez éloquent puisqu'il dit, alors qu'auparavant ils avaient affirmé qu'ils savaient pas où étaient ces jeunes, qui dit très bien qu'ils ont localisé quelques jeunes dans l'espace de ce transformateur, et il y a quelqu'un d'autre qui répond à ce moment-là, t'inquiète pas, ils iront pas loin. Alors qu'est-ce que voulait dire ce t'inquiète pas, ils iront pas loin? On peut se le demander sérieusement, et on peut se demander effectivement à ce que certains groupes politiques parlent de comment dire de de non-assistance à personne à danger, c'est le moins qu'on puisse dire, non-assistance en personne en danger.
Mais je crois que
là, on retrouve toujours la même logique, juste, tu disais au début en présentant, les mensonges de l'État, les mensonges de la République, les mensonges d'un gouvernement qui passe son temps à gouverner sur la base de la peur et du mensonge. Et voilà, bon, on va développer ça
oui,
après.
Puis, enfin, quelque part, c'est la seule chose où ce gouvernement et ses sbires disent la vérité, c'est que là, aujourd'hui, ce qu'on constate, quand on entend des propos comme ceux que tu viens de relater, donc déjà, il ne s'agit pas d'un accident, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, et en fait, c'est simplement l'illustration matérielle, très tangible, de la politique que Sarkozy a proposée lorsqu'il a réagi, lorsqu'il était présent dans le reportage là qu'on a remis là, à la Courneuve, c'est-à-dire en présentant les habitants de ces cités comme de la racaille, en disant texto qu'un nettoyage serait fait au sens propre du terme. Voilà, donc là aujourd'hui, je crois que il y a l'attitude des flics qu'on connaît, hein, on connaît les dérapages des flics, mais ces dérapages aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer ça comme des dérapages, ou est-ce qu'on ne doit pas plutôt considérer ça comme une politique de terreur pilotée par Sarkozy, qui prétend de manière complètement démagogique pouvoir résoudre les problèmes sociaux qui existent dans toutes sortes de quartiers de France et en dans toute la France en fait, hein, sans parler de quartiers, simplement en utilisant la force. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, aujourd'hui, que la force, eh bien, ne peut répondre que la force, et que si les voitures n'avaient pas brûlé, eh bien, l'attitude des flics, eh bien, serait restée enfouie, comme dans de nombreuses autres affaires.
Oui, alors moi je voulais dire justement, au début tu as présenté la perception, et c'est quelqu'un qui avait téléphoné sur une radio, peu importe laquelle, en disant qu'il comparait l'attitude de Sarkozy à l'attitude de Sharon sur l'esplanade des mosquées, qui avait déclenché justement une vague une vague d'intifada et tout ça. Eh bien là, il y a quand même une comparaison assez proche à faire, même si c'est pas aussi énorme que ce qui se passe en Palestine, mais néanmoins. Sur le territoire national français, il y a un traitement colonial des banlieues qui est en train de revenir à la gueule du gouvernement. Et ce traitement colonial des banlieues, il est mené depuis plusieurs décennies, il faut le dire. Depuis plusieurs décennies, toute la classe politique a fermé les yeux, toute la classe politique a été aveugle au travail de fond qui a été fait par des associations comme le MIB, par exemple, le mouvement d'immigration des banlieues qu'on a eu souvent sur cette antenne, dont on a souvent relaté les actions de soutien par rapport aux gens qui se faisaient tout simplement liquider par les flics, aux multiples procès pour lesquels il n'y a jamais eu de suite, où il y a eu tout simplement des relaxes. Eh bien, la dernière association qui avait été gravement malmenée, c'est l'association Bouche qui bouge, dans l'Île-de-France également, qui faisait également un travail. Donc toutes ces associations-là ont été purement et simplement liquidées par cette République bananière pour faire place nette et pour faire en sorte que qu'il n'y ait plus qu'une seule expression possible, c'est l'expression du désespoir de gens qui sont quotidiennement harcelés par les forces de police.
Peut-être qu'avant de passer à un développement de ce qui s'est passé dans ces dernières heures, ces derniers jours, concernant les banlieues, les quartiers, on va peut-être vous parler on va vous donner encore deux coupures qu'on a chopées sur Internet concernant Clichy-sous-Bois, des témoignages.
Donc ça, c'était le samedi 30, ou je sais plus où...
Le jour de la manifestation, oui, où voilà. Il y a eu, paraît-il, d'après la presse, ils ont vu 300 personnes, alors qu'il y en avait au moins 1000, et photo à l'appui. Quand on voit les photos, on s'aperçoit qu'il n'y a pas 300 personnes. Rien que sur la photo, on en compte beaucoup plus de 300.
Les jeunes qui ont fait un discours tout seuls à la fin, sur leur t-shirt, ils ont marqué « mort pour rien ». Mmh. Pourquoi ?
Bah, je pense qu'ils sont morts pour rien parce que c'est à cause des rumeurs et la version de ce que disent les policiers et tout ça. Ils disent qu'ils les ont poursuivis parce qu'ils étaient envolés, alors que les jeunes disent qu'ils les ont poursuivis parce qu'ils ont couru parce qu'ils allaient les contrôler. À Clichy, quand un jeune se fait contrôler, il se fait toujours taper. C'est pour ça qu'ils ont couru. C'est pour ça. Ils ont toujours là à fouiller des gens pour rien du tout, même ceux qui n'ont rien fait. Et donc ils sont morts pour rien.
Antoine Germain, toi t'es prof au lycée Alfred Nobel de Clichy. On a eu le discours du maire et le discours de l'imam.
On a eu le discours de plusieurs associations musulmanes. Ouais. T'as eu donc, le discours de l'imam, le discours de la grande mosquée. Et après, t'as eu le discours de jeunes. Je ne sais pas d'où ils viennent. Ouais. Le groupe de jeunes s'est auto-organisé. Beaucoup plus politique, justement, sur les problèmes qu'on rencontre Clichy-sous-Bois, puisque ici, c'est une des villes les plus pauvres. Et que depuis le début des, événements, tous les aspects socio-économiques ont été occultés partout. Partout. Et qu'on a juste un aperçu purement sécuritaire du problème. Puisque ça est une émeute de plus, comme dit Sarkozy, sans rien vouloir comprendre à tous les enchaînements, à toutes les causes qui peuvent expliquer ça.
Là, la marche descend en direction, les parties de la mairie, la marche silencieuse, et elle descend en direction de cette centrale EDF, où les deux jeunes sont morts jeudi dernier. Ils ont laissé apparemment une voiture brûlée là, au milieu du parcours. C'est pour le décor, ça, je pense,
non ? Oui, bien sûr, c'est pour le décor, pour les télévisions. C'est pour montrer effectivement qu'à Clichy-sous-Bois, tout va mal.
La police encadre aussi largement le défilé. Oui. Il y a eu deux nuits d'émeutes, hein, c'est ça, dites émeutes.
Mmh. C'est quelques petits groupes qui, effectivement, vont au front contre la police. Hein. Et c'est simplement, ici, ce qu'il y a, c'est que les émeutes ont eu un sens, je pense, qui n'a pas été décrypté assez vite. C'est-à-dire que la première nuit, dans un geste presque réflexe, finalement, c'est une école, la poste, les pompiers, la police qui ont été visés. Et voilà, c'est les lieux qui ont été touchés en premier, et je pense que ça a un sens, effectivement, face à cette commune totalement enclavée, et puis un peu laissée pour compte. Hein.
Clichy-sous-Bois, limitrophe du Raincy, commune assez riche de France. Mmh. On est à quoi, 15 km de Paris.
C'est simplement une caméra qui est en train de filmer une épave de voiture, alors que le reste est...
Qu'est-ce qu'ils disent ?
À côté, ils disent avec raison que les bonnes choses, ils ne les filment jamais. Et c'est vrai, ils filment simplement ces carcasses qui ont été laissées par la police.
Voilà. Alors, on en est, je crois, terminé par rapport à Clichy. On va peut-être maintenant aborder le problème de ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Et on en est à, faut le rappeler, plus de 1000 interpellations. Il y a déjà une centaine de jeunes qui sont soit en prison, soit sont passés en justice. Il y en a plus des dizaines et dizaines qui ont déjà été condamnés à de la prison ferme. Il y a eu, alors je vous donne pas les autres chiffres de voitures cramées, tout ça on s'en fout, le problème n'est pas là. D'ailleurs, on pourra d'ailleurs revenir un petit peu par rapport aux aspects moraux qu'un certain nombre de gens nous sortent aujourd'hui. Oui, mais ils font n'importe quoi, etc.
Oui, moi, ce que je voulais ajouter, c'est rebondir par rapport à ce qui est dit dans ce reportage et qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'une émeute, ça a toujours un sens. Une émeute ou n'importe quel acte qui est fait par n'importe qui, n'importe quel signe, n'importe quelle expression dans la société, on sait qu'il y a des sociologues qui sont toujours prêts à trouver du sens, et évidemment, en cherchant bien, sans se creuser trop la tête, on finit toujours par trouver une explication aux choses lorsqu'on présente effectivement le tableau dans son ensemble. Et là, effectivement, le problème, c'est un problème social de fond, et un problème social et politique, c'est-à-dire le problème que tout le monde connaît dans ces banlieues, c'est-à-dire ces banlieues, ce sont des banlieues ouvrières, des banlieues qui sont confrontées au chômage, ce sont des banlieues qui sont confrontées à un manque de perspective, parce qu'il faut replacer le problème aussi dans ce contexte-là, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui s'exprime aujourd'hui ? Il y a une réaction par rapport à un problème de violence policière, mais bon, ça, c'est pas la première violence policière qui est en France. Des morts par biais d'actions policières en France, il y en a tous les ans, il y en a tous les jours, enfin, j'ose pas dire tous les jours, mais c'est quand même très fréquent, sans que ça donne lieu systématiquement à des réactions aussi d'envergure, c'est-à-dire là une réaction qui concerne non seulement la ville de Clichy, mais qui va concerner très vite d'autres villes de banlieue parisienne et d'autres villes de province, c'est-à-dire que c'est pas simplement une réaction, il y a cette réaction-là, il y a une réaction de ras-le-bol, et tout à l'heure je disais que si ces voitures-là, par rapport, pour répondre aux gens qui disent, ouais mais c'est n'importe quoi, ils brûlent des bagnoles, seulement si ces voitures-là n'avaient pas été brûlées, si le phénomène ne s'était pas amplifié à d'autres banlieues, aurait-on parlé de cette façon-là ? Aurait-on commencé à se poser des questions, par exemple sur les médias, hein, sachant que les médias sont toujours prompts à montrer les voitures cramées et les conneries entre guillemets que font les gamins, mais ne parlent jamais de l'attitude de la police. Ils ne parlent jamais de la situation sociale qui est laissée en plan et qui se dégrade tout le temps. Si ces voitures-là n'avaient pas brûlé, en aurait-on un petit peu parlé aujourd'hui ? Est-ce que ce problème-là aurait été évoqué ? Eh bien non. Si, comme le disait la personne interviewée tout à l'heure, ils s'en sont pris à la poste, à l'école, donc à des organismes qui sont catalogués comme étant des organismes appartenant à l'État, c'est très certainement pas un hasard. Et la voiture qui crame, c'est pour permettre de donner un écho à cette sonnette d'alarme qui est tirée de manière consciente ou moins consciente, ça dépend, peu importe. Ce qui importe, c'est de savoir comment le feu a pu prendre.
Alors simplement, ouais, ce que je voulais,
Camille, juste une précision par rapport à ça, parce que c'est directement dans le truc. La légitimité, tu parlais de la légitimité de l'action. Effectivement, on n'accorde pas de légitimité à cette action, les médias, les politiques et tout ça. Alors que lorsque c'est le mouvement de la FNSEA qui détruit un conseil général, une préfecture ou même un ministère, eh bien là, la légitimité coule presque de source pour les médias. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Camille, tu as des choses à dire là ? Alors bon, par rapport à ça, je crois qu'il y a des tas de choses qui ont été dites, parce que actuellement, il y a des tas de textes qui circulent, il y a des tas de réactions qui sont souvent, d'ailleurs, de temps en temps contradictoires entre elles, mais c'est très bien, le débat se fait. Il y a quelqu'un qui disait dans l'un de ses textes, grandir en cité, c'est pas un cadeau, c'est violent. Et il y a vraiment pas, il y a pas vraiment d'avenir, pas d'espoir. Tout le montre que tu n'es qu'un déchet. La saleté, le chômage, le racisme, l'isolement, la haine, et par-dessus tout la police. Pour les premières émeutes, comme dans bien d'autres par le passé, c'est la mort d'un des leurs qui les fout dans la rue, plus que les médias. Et ça, dans les cités, tout le monde le comprend. Quand c'est un gamin de la cité qui tombe, la police n'est jamais loin. Voilà, c'était l'une des réactions que je voulais donner. J'en ai d'autres, peut-être que vous avez des réactions qui, par rapport à ça, pour illustrer un peu... ce qui se passe actuellement, il y a aussi un texte qui se termine d'une manière très très chouette. Cette violence, messieurs du 16e arrondissement, vous fait peur, car justement, elle ne vient pas de partis politiques, mais de jeunes ou moins jeunes, qui eux n'ont plus rien à perdre ou si peu. Vous ne leurrez personne, même vos sourires de supériorité ont disparu de vos faces. Pourquoi autant d'énergie à nous répéter jour après jour que la violence nuit aux violents? Que là n'est pas la réponse. Alors, messieurs, où est-elle cette réponse à toute cette violence envers nous, les pauvres et les modestes ?
Moi, je voudrais faire un petit commentaire par rapport à ça. Alors, peut-être qu'ils ont, tu dis, enfin, dans ce que tu relatais, ils n'ont pas peur parce que cette violence-là ne vient pas de partis ou de groupes politiques. Mais je pense que si, dans les banlieues, dans le reste de la société, par rapport à l'adversité auquel on est confronté aujourd'hui, par rapport à l'agressivité des gouvernements, à l'agressivité des patrons, qui jouent aussi sur la division qu'il y a entre les populations, c'est-à-dire que bon, par médias interposés, on rencontre n'importe quoi et on en profite parce que il y a des gens qui habitent à tel endroit d'une ville, d'autres qui habitent à un autre endroit d'une ville et qui ne communiquent absolument pas entre eux, qui ne savent pas ce qui se passe à 500 mètres ou un kilomètre de chez eux et qui sont évidemment vulnérables à toutes sortes d'intoxications qui sont véhiculées par les médias, les flics par le pouvoir en général. Seulement là, j'ai perçu moi une petite différence par rapport à d'autres affaires comme ça. Au quotidien, dans mon boulot, j'ai eu l'occasion de discuter avec toutes sortes de gens où là, par contre, il y a une interrogation, comme je le disais tout à l'heure, qui commence à pointer par rapport à l'attitude des flics. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont sorties où les gens... il y a toujours ceux qui se posent pas de questions connement, qui sont du côté des flics parce qu'il y a des voitures qui brûlent, parce que c'est con. Ce que j'ai constaté tout de même, c'est qu'il y avait quand même pas mal de gens qui réagissaient à d'autres arguments et qui pointaient très clairement la responsabilité du gouvernement, de Sarkozy, mais aussi des autres gouvernements, c'est-à-dire de tout ce qu'il y a de tout ce qui n'a jamais été fait dans ces cités, c'est-à-dire le fait qu'on laisse tout pourrir et que de plus en plus, eh bien, la seule solution que le pouvoir a à nous proposer, eh bien, c'est la matraque, comme dans d'autres cas.
On va faire une pause musicale nous permettant de retourner la cassette.
Celle-là, elle s'appelle la France à part. J'allume ma
Tenez, je vois un petit gars bien sapé. Il me dit que ça craint, que dehors, faut pas y aller, que si je veux me sentir bien, et puis pour ma sécurité, alors je dois rester chez moi aujourd'hui. J'ai pas le choix. Bon ben, je me dis qu'il fait froid. Il a peut-être raison, il a l'air tellement sérieux sous ses allures de pauvre con. On, on, on. La France a peur tous les soirs à 20h. La police vous parle tous les soirs à 20h. La France a peur. Tous les soirs à 20h.
Vous avez peur là, hein?
La police vous parle.
Ayez confiance! Ça va bien se passer!
Tous les soirs à 20h! Ensuite, ils font parler un type. Il a pas l'air de manquer de fric. Il me dit que si je veux respirer, ben c'est pour lui qu'il faut voter. Prendre ma carte du parti, lui filer quelques billets. Il me dit que si l'air est pollué, si les Français sont stressés, c'est de la faute des immigrés, des clochards et des drogués. Et puis aussi des pédés, il paraît. Un sapeur, tous les soirs à 20h. La police vous parle, tous les soirs à 20h. La police vous parle tous les soirs à 20h. Alors écoute bien mon petit gars, toi qui trône à la télé. Si un jour tu crèves de froid chez moi, faudra pas venir sonner. Et puis si un jour par malheur les rapaces prennent le pouvoir, dis-toi bien que ça sera pas la faute à tous les gens qui broient du noir. De toute façon ne t'en fais pas, ils auront sûrement quelque part une jolie petite place pour toi. T'auras bien fait ton cinéma, t'auras bien fait ton cinéma. La France a peur tous les soirs à 20h. La police vous parle tous les soirs à 20h. La France a peur.
Je veux rester chez moi.
Tu leur fais pas peur, mon petit gars.
Si, ils sont morts de peur, là.
Tous les soirs, à 20h, deuxième essai.
Je crois que j'y arriverai pas, de toute façon.
Nicolas Sarkozy vous parle.
Arrêtez. Ah. Arrêtez ou je vous prends votre téléphone portable.
Attention.
Attention, moi si vous fumez du cannabis... Le téléphone portable. Passé.
Plus de scooter.
Plus de scooter. Ouais.
Non, mais vous, en fait, vous l'aimez bien, le futur président de la République. Ouais. Oh, vous êtes pas cool, hein, vous êtes pas cool. Tous les soirs, à 20h.
Bonjour, je vais quand même me présenter. Je m'appelle Jean-Pierre Pernaud et je vais vous raconter une petite histoire drôle. Donc vous voyez, au Soudan, il y a eu 2660 millions de morts. Mais bon, nous, au journal, le Soudan, on en a rien à foutre. Parce qu'en France, on a Germaine. Et Germaine, elle s'est coupée le doigt. Et ça, ça fait vachement mal de se couper le doigt, hein? Eh oui, et y a Marcel, lui, il veut des chaussures en bois. Ouh, alors ça c'est joli, les chaussures en bois, hein. Voilà, tu vois, les mecs qui crèvent la dalle, là, ils comptent pas de thunes. Eh bien, nous, au journal, on en a rien à foutre.
crois que la chute de la chanson résume bien la situation. Dans les journaux, les gens qui crèvent la dalle et qui n'ont pas de thunes, ils en ont vraiment rien à foutre. Voilà. Donc pour continuer ce qu'on racontait tout à l'heure, en aparté, on est en train de se dire qu'il y a des messages de solidarité, machin, des réactions qui ont été faites par des groupes, des organisations politiques et compagnie. Mais après la question, c'est de savoir pour que ces choses-là n'en restent pas là, pour que ça ne reste pas simplement une révolte, parce qu'on va dire que c'est ça, c'est une révolte, une réaction à un problème politique donné. Tu disais tout à l'heure, Denis, dans ce que tu relatais, que les politiciens, ils commencent à faire un petit peu la tronche parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quand même une bonne capacité de réaction qui peut leur poser un sérieux problème politique.
Et en plus, ils s'enferment actuellement, c'est fou, hein. Si vous écoutez les informations lundi soir, là, il y en a un qui a déjà décrété carrément interdiction pour les jeunes.
Le couvre-feu au Rassi.
Carrément, hein.
Alors oui, simplement ce que je voulais dire, tu disais révolte, moi j'appellerais ça jacquerie des temps modernes.
Voilà, donc pour que ça... Voilà, alors après, donc déjà ça leur fait grincer les dents, ça les fait pâlir, mais bon, à la limite, ils peuvent encore avoir des parades par rapport à ça, avec le genre de contre-feu que tu viens de dire, à savoir le couvre-feu. Ça résoudra sans doute rien, mais bon, ils ont encore des cordes à leur arc. Par contre, si... ce qui serait souhaitable, étant donné que les problèmes sociaux n'existent pas que dans les cités et qu'ils sont répandus dans l'ensemble de la société française, quand je considère la société française par en bas, c'est-à-dire ceux qui crèvent la dalle et ceux qui n'ont pas de thunes, c'est-à-dire les gens qui sont proches de nous, je ne parle pas des autres évidemment, moi ceux-là me sont totalement étrangers. J'ai du mal même à considérer qu'ils fassent partie de la même société que moi. Enfin bref, c'est un aparté. Donc voilà, justement, les problèmes à chaque bout de la société, évidemment, vont avoir des expressions différentes, mais le fond du problème est toujours le même. Et dans tous les cas, que ce soit dans les cités aujourd'hui ou que ce soit dans des entreprises qui décident de taper du poing sur la table, eh bien la réponse naturelle de plus en plus, c'est d'envoyer les gros bras et de criminaliser les gens qui ont tout simplement recours eh bien à la bonne grève, hein, celle que dont certains dénient tout rôle dans la possibilité de débloquer des situations. Eh bien jusqu'à preuve du contraire, lorsque on a quelque chose à dire, le seul moyen c'est de taper du poing sur la table. Eh bien dans une usine ou dans une entreprise, on fait grève. Quand on est en banlieue, on brûle des voitures et on fait monter la pression de cette façon-là. Mais dans tous les cas, la source du problème est la même, même si les problèmes s'expriment peut-être de façon différente ou de manière plus grave dans certains endroits, la source du problème, c'est toujours la même. C'est-à-dire que nous sommes dans une société qui donne pratiquement aucune perspective à une partie de la population, qui en enlève à ceux qui en avaient encore. Voilà, c'est ça le climat dans lequel on est aujourd'hui, que ce soit dans les banlieues ou dans les entreprises. La chanson, là, nous dit « La France a peur ». Alors oui, alors bon, il y a les fausses peurs, mais il y a les vraies peurs. Seulement, aux vraies peurs, peut-être que les gens qui se prennent un petit peu la tête, il y a peut-être moyen de les contourner, puis de trouver des solutions aux problèmes et s'attaquer justement à ceux qui nous emmerdent au quotidien, que ce soit les flics dans les banlieues, que ce soit les petits chefs dans les boîtes ou les chefs d'entreprise, et que au-dessus de tout ça, eh bien, il y a un seul et même système. Donc, il s'agirait effectivement de transgresser un petit peu tous les obstacles qu'il y a, tous les murs qu'il y a entre les quartiers, qui ne seront pas écroulés évidemment par l'information télévisée ou même celle des journaux. Il va bien falloir qu'on trouve nous-mêmes les moyens de joindre en fait ensemble tous ces problèmes dans un grand melting pot, là cette fois-ci politique, qui finissent par montrer du doigt effectivement le problème, quoi.
Hein. Moi je voudrais que tu précises ce que tu entends par jacquerie, parce que ça me semble quelque peu un terme qui interdit toute possibilité de réflexion aux gens qui sont les acteurs de cette révolte, alors qu'à mon sens il y a réellement une volonté de s'organiser, une volonté de se coordonner au niveau national, puisqu'on voit qu'il y a des réactions, il y a une certaine unité au niveau national dans énormément de banlieues. Et je, le mot jacquerie, je sais pas, je le sens pas bien, quoi. Et puis, je voulais dire, par rapport à ce que disait Christophe, que la répression, elle s'organise de plus en plus par l'État avec ses corps d'élite. Maintenant, c'est plus, on n'en voit plus simplement les bleus, ni même les casqués. On en voit les corps d'élite sur le Pascal Paoli, le navire de la SNCM, où on en voit le corps d'élite lorsque des postiers ont le malheur d'occuper et de séquestrer quelques dirigeants de leur poste.
Pas séquestrer, hein, de ne même pas séquestrer.
Oui, ils les ont retenus pendant quelques heures et ils ont été une quinzaine à être inculpés et après avoir été capturés par le GIPN.
Donc voilà,
on a affaire à une gradation de la part de l'État, parce que tout simplement l'État a peur de cette convergence que tu décrivais et que tu souhaitais.
Oui, mais par exemple, pour reprendre le truc de Camille par rapport à Jacquerie, c'est absolument pas péjoratif.
Non.
Le truc, c'est simplement pour dire, bon bah pour l'instant, c'est simplement une révolte. Ça me fait penser un petit peu quand le roi en 1789 s'inquiétait pas énormément de ce qui était en train de se passer. Et puis il y en a un qui lui dit, sire, c'est pas une révolte, c'est une révolution. C'est un petit peu plus grave ce qui se passe. Donc voilà, c'est que bon, tant que ça reste des révoltes, il y en a plein. C'est-à-dire que ça pète. Et on s'exprime de cette façon-là. Ce que je voulais dire pour répondre à ce qui était dit tout à l'heure dans le texte, c'est que voilà, peut-être que il faut passer s'il y a possibilité, et je pense que si les gens réfléchissent, et puis surtout si tout le monde se bat et que on reste pas chacun dans notre coin, ça peut arriver sur des trucs politiques. Mais un truc politique, ça veut dire que ça sera pas forcément, ça sera pas spécifiquement le problème des banlieues, ça sera pas spécifiquement le problème de telle autre catégorie sociale, ça sera le problème de tout le monde, de tous ceux qui se prennent plein la gueule dans la société et qui prennent conscience qu'il faut transgresser justement toutes ces limites, hein, que ce soit les gens dans les quartiers qui ont envie d'en sortir, que les gens qui sont pas dans les quartiers qui ont envie d'y entrer pour aller voir là-bas si ce qu'on nous raconte c'est vrai. Moi qui y vis depuis un certain nombre d'années, et ben quand je entre ce que je vois dans mon quotidien et ce que je lis, même sur Reims, quelquefois j'ai vu des articles sur ce qui se passait en bas de chez moi. J'étais même pas au courant, moi, qu'il y avait eu un problème, hein, alors que j'y suis tous les jours, hein, et sans parler des réputations qu'on se fait, bon, sur lesquelles aussi les gens des quartiers peuvent jouer aussi, histoire de se la jouer un petit peu, histoire de rigoler aussi un petit peu, quoi, hein. Mais bon, il y a pas mal de fantasmes aussi là-dessus, faut arrêter de délirer. Il y a la plupart des gens qui sont là-dedans, dans 99,99% des cas, ce sont des gens comme vous et moi qui vivent, hein, qui vivent et qui essayent de survivre et qui essayent de s'en tirer. Et c'est pas évident de s'en tirer tous les jours. Alors évidemment, quand on entend un Sarkozy qui, lui, n'oublions pas quand même, est originaire de Neuilly, c'est-à-dire que lui, la galère, il la connaît pas, le chômage, il le connaît pas, qui fait partie d'un gouvernement qui fout des gens à la rue, des entreprises, qui prend des mesures contre les chômeurs, qui prend des mesures contre les immigrés, contre les sans-papiers, à tour de bras. C'est-à-dire que la merde auquel on est confronté, c'est lui qui la sème, c'est lui qui chie partout. Et puis après, ils viennent nous donner des leçons, ces gens-là. Voilà, c'est ça la situation, c'est ça qu'on devrait dire. Parce que pour transcrire de manière très simple les politiques qui sont menées depuis des années par les gouvernements de droite et de gauche, c'est ça, on sème la merde, on jette de l'huile. Alors évidemment, sur un tas d'huile, il suffit qu'il y ait une toute petite allumette qui tombe pour que ça flambe. C'est tout. La situation, elle est aussi simple que ça. Et je crois que aujourd'hui, moi, ce qui me met le plus en colère, c'est surtout quand on est avec des collègues, avec des copains, qui vont nous ressortir les conneries qu'on entend à la télévision, des conneries qui vont leur faire prendre des attitudes et des idées qui vont être contraires à leurs propres intérêts. Parce que accepter les flics dans les banlieues, c'est accepter les flics dans sa boîte le jour où on se met en grève.
Ouais, simplement, on parlait tout à l'heure des trucs économiques. Lorsque Sarkozy était venu à Aulnay, à la Courneuve, à la cité des 4000, il était venu, le premier coup, il a fait son discours sur Carcharissé, et il est revenu quelques jours après, en amenant, soi-disant, sur un plateau, 500 emplois. Oui, c'était quelque chose comme ça, je sais plus, c'était 500. Alors, on se rend compte que quelques mois après, il y a 50 personnes, effectivement, qui ont été embauchées. Et entre autres, il y avait un accord qui a été signé, qui l'aurait signé avec PSA à Aulnay-sous-Bois. Et qu'est-ce qu'on apprend? C'est que PSA va licencier 500 personnes. Et pareil, il y a une autre boîte à côté sur laquelle il y avait un accord qui va licencier 380 personnes.
Ouais. Ben c'est ce soir à 20h hein, que le fameux De Villepin doit annoncer, on est le lundi, je rappelle pour ceux qui sont de Montpellier et Toulouse, on est le lundi 6 novembre, cette émission-là est faite le 6 novembre, on ne sait pas ce qui va se passer dans ces prochaines heures, ces prochains jours, mais ce soir, normalement à 20h, au journal de TF1, il y a De Villepin qui va distribuer certainement un peu. Après, bien sûr, quand les banlieues seront calmées, il va distribuer, bien comme d'habitude, du vent.
Ah ouais, alors il y avait un truc sur lequel je voulais aussi revenir, c'est que on met souvent en cause l'urbanisme, l'architecture, en disant que c'est l'architecture qui crée les situations. On s'aperçoit qu'ils sont en train de tout raser depuis des années, reconstruire du neuf. Pas mieux qu'avant, sauf que c'est moins haut, mais c'est toujours les mêmes merdes. Je pense que dans 30 ans, elles sont bonnes aussi à être balancées. Et effectivement, on crée pas les conditions économiques à côté. J'avais lu dans les témoignages dont tu as fait écho une personne qui bosse dans les services sociaux à Aulnay-sous-Bois. Il y a une cité qui s'appelle la cité des 3000, pas la cité des 4000 comme au truc. Elle disait, elle avait affaire, elle suivait 450 personnes. Sur ces 450 personnes, elle disait qu'il y en avait 10 qui avaient du travail.
10 qui avaient du travail.
Et elle expliquait que, par exemple, donc la plupart étaient au RMI et ne pouvaient pas payer leur loyer, ne pouvaient pas payer la cantine des gamins. Et pour pouvoir ne pas payer la cantine des gamins, on demandait que les parents fournissent un certificat comme quoi ils recherchaient bien du travail. Il fallait qu'ils amènent des preuves qu'ils étaient à la recherche de travail.
Alors par rapport à justement, il y a un truc moi dans ce qui est dit dont il faut se méfier tout de même, c'est de s'en prendre qu'à une seule personne, c'est-à-dire à Sarkozy. Oui. Et on voit aujourd'hui par exemple un certain nombre de gens de gauche évidemment qui demandent, eux voudraient bien sûr prendre les manettes du pouvoir, ils voudraient en profiter et revenir donc alors qu'ils ont été aussi nul que ce qu'a été la droite plus tard. Et ces gens-là, bien sûr, veulent trouver le bouc émissaire par rapport à ce qui se passe. Alors, en fait, je crois qu'il faut poser le problème autrement. J'ai déjà, si les gens prenaient conscience que il faut, les gens, quand je dis les gens, je suis un peu comme toi, sur des bases de classe, prenaient conscience qu'aujourd'hui, tout de même, il faudrait reposer le problème d'une nouvelle répartition de la plus-value qui est produite, de justement poser ces problèmes économiques, sociaux et fondamentalement politiques, là, effectivement, on avancerait certainement. On avancerait certainement et ça ne serait pas de demi-mesure, remplacer Sarkozy par un autre ou remplacer Trucmuche par la gauche poubelle. Voilà.
Enfin, sauf que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, puisque c'est l'ensemble du système. On est bien d'accord qui est responsable des situations auxquelles on est confronté. Et là, on voit la réaction de ce système-là par rapport aux classes pauvres, c'est-à-dire aux classes travailleuses en grève, aux classes travailleuses ou chômeuses lorsque c'est dans les quartiers, les laissés pour compte de cette société. Mais aujourd'hui, comme de toute façon droite et gauche n'ont strictement rien à proposer maintenant, c'est que de toute façon leur politique c'est de bien huiler le système capitaliste pour qu'il se fasse un maximum de fric. Et puis qu'est-ce que c'est la différence entre la gauche et la droite? C'est que la gauche elle va lâcher quand elle le peut quelques miettes pour calmer les laissés pour
compte. Elle va foutre des flics de proximité.
Voilà. Et puis la droite, écoutez, non, ça coûte encore trop cher. Non, on va y aller directement à coup de matraque et à coup de flashball. Voilà. C'est donc il y a une espèce de surenchère de toute façon dans la gestion des résultats de leur système et aussi par rapport à la notion de sécurité. Rappelons que la dernière élection présidentielle, tout s'est fait autour de la sécurité et tout le monde essayait de faire de la surenchère par rapport à ça. Donc c'est pas étonnant qu'on se soit retrouvé avec Le Pen au deuxième tour, puisque de toute façon tous les candidats s'étaient mis d'accord pour mettre tout ça au milieu du tapis. Donc voilà, la seule chose en fait qu'ils ont à nous proposer, c'est savoir en fait comment ils vont nous taper sur la gueule. Est-ce que c'est avec des matraques en bois ou est-ce que c'est avec des matraques en caoutchouc un peu flexible? Ou peut-être des matraques en guimauve, mais ça j'y crois pas. Les guimauves roses du Parti Socialiste, j'y crois pas non plus. À mon avis, elles feront mal aussi, les matraques du Parti Socialiste. Sauf que comme généralement, ils sont un petit peu plus intelligents exemple des zigotos comme Sarkozy, ils font les choses de manière un petit peu plus soft en apparence. Mais bon, de toute façon, pour les jeunes dans les quartiers, ça change pas. Hein, ils ont toujours face à eux les casqués, les beautés qui leur courent après, qui leur font les contrôles d'identité comme celui qui a débouché sur deux morts et un blessé grave. Et c'est toujours la même chose pour nous dans le bas de la société. En fait, au quotidien, eh ben, ça change pas. Ça change rien, que ce soit rose, bleu ou bleu foncé.
Non, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que là, on peut écouter depuis quelques jours des interventions d'élus, de maires de communes, qui soient de droite ou de gauche. Ils ont tous le même discours. Ils ont à peu près les mêmes solutions. Et pour eux, la République est en danger. C'est ça, la grosse trouille qu'ils ont, c'est il faut répondre à la République en danger.
Bah oui, mais le truc, c'est que je pense surtout que, étant donné, si la situation continue d'évoluer comme ça, c'est que de plus en plus, la République va être un danger pour nous. Ça, c'est évident. Enfin, la République telle qu'elle est aujourd'hui.
Et c'est déjà un danger. C'est moins qu'on puisse dire, y compris et surtout pour ceux qui vivent dans ces galères. Là, je crois que, bon, t'as parlé au début un truc intéressant et important, c'est que là-dessous, dans ces banlieues, etc., même s'il n'y a pas que, mais il y a surtout les jeunes issus de l'immigration, et de l'immigration coloniale. Et il n'y a pas que dans les banlieues, loin de là. Mais n'empêche que au niveau du quotidien et des insultes, par exemple, et des contrôles aux faciès, etc., c'est eux qui en prennent la plupart du temps les premières conséquences, quoi. Du quotidien, le quotidien étant fait effectivement de galères, on ne sait pas, il y a aucun devenir pour tous ces gens, qu'ils soient d'ailleurs jeunes ou pas jeunes d'ailleurs. Il y a des gens qui ont 50, 60 ans et qui n'ont plus rien et qui vivent dans des situations complètement dramatiques.
Oui, le truc, je voulais prendre quand même, je sais pas quelle est la situation exacte dans les banlieues, mais là on a eu récemment les statistiques par rapport à l'immigration en Champagne-Ardenne, et on s'aperçoit que le taux de chômage des immigrés est le double de ce qu'il est au niveau global, et que le taux de chômage des femmes est 4 fois plus important qu'au niveau global pour ces femmes immigrées.
De toute façon, dans ces quartiers, c'est déjà extrêmement difficile quand on en vient de trouver du boulot. Donc c'est crescendo. Hein. Vous venez du quartier, vous êtes plus au chômage que dans le reste de la société. En plus, vous êtes émigré dans ce quartier-là, donc on en rajoute une louche. Et en plus, vous êtes une femme, donc on en rajoute encore une louche. Voilà, la boucle est bouclée. De toute façon, ça a toujours été le cas. Hein. C'est-à-dire, plus on arrive donc situation travailleur émigré, femme, subissant de plus en plus le poids en fait qui pèse déjà lourdement sur les autres.
On va peut-être faire une petite pause musicale.
Esta favola que voy a contarte.
Trabajaré por un carpintero. Y a la corriente me socorron. Porque la María me chingue. Con un báculo sacré.
Chulo, no me cuentas películas. Es una verdura.
Trabajaré por la cultura. Me sacaron por no madurar. Ahora llego plantas más seguras
y las fumo sobre vuestras basuras.
Oh,
no me vas a creer.
Fue el cantor de chorizos y me encontré en el mismo chamizo.
Peut-être, bien sûr, de toute façon, on est obligé de terminer dans 4 ou 5 minutes. On a eu un texte là qui est venu de la gauche et de la. Pas le PS, hein, tout de même. Hein. Il y a des gens, des associatifs essentiellement. Il y a l'OMRAP, il y a le GISTI, il y a tous ces gens-là. Et il y a quelque chose qui ne nous plaît pas du tout. Ces organisations ils disent qu'ils sont inquiètes. Tout cela renforce une situation d'exclusion et de tension qui ne trouve pour l'heure d'expression et d'exutoire que dans la violence, le désespoir, le désarroi. Et ce climat, donc la violence des jeunes aujourd'hui, accroît un peu plus les difficultés des populations, des gens victimes du chômage, de la précarité, des discriminations, du démantèlement des services publics, de l'échec scolaire, du mal logement, de la diminution des crédits alloués à la prévention. Comme d'habitude, eh bien on ne reconnaît pas finalement le mouvement qui existe actuellement.
C'est pas sa légitimité.
Ils ne perçoivent pas en fait que ce qui se passe, c'est un moyen d'expression, parce que les gens qui sont impliqués, ben, ce sont pas des professionnels de la politique, comme il y en a très peu de toute façon dans tout le reste de la société. Mmh. C'est un moyen d'expression, et sans ce moyen d'expression-là, sans cette pression qui est mise dans les banlieues, eh bien ce texte-là de toute façon n'existerait pas. Les exactions policières, eh bien resteraient enfouies, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors on disait aussi le mouvement devenait un petit peu plus politique et que si les jeunes des banlieues eh bien se retrouvaient sur une revendication commune et qui pourrait aussi quelque part cristalliser aussi d'autres éléments de la société. Alors ce texte-là visiblement en parle aussi, mais si c'était porté par les jeunes eux-mêmes, ça aurait beaucoup plus de force, c'est-à-dire exiger la démission de Sarkozy, puisque Sarkozy aujourd'hui qui est ministre, un des ministres principaux de l'État français, se complaît dans des attitudes effectivement qui sont irresponsables. C'est de l'appel à la violence, c'est-à-dire que Sarkozy aujourd'hui, que fait-il ? Eh bien, il devrait être condamné en fait pour trouble à l'ordre public, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Sarkozy est effectivement un danger pour l'ordre public. Donc si les jeunes poussaient jusqu'au bout et mettaient un nom en fait derrière au-dessus des flics, c'est-à-dire leur chef, celui qui leur donne les ordres, celui qui les encourage, celui qui a dit à la Courneuve qu'il fallait faire du nettoyage au sens propre du terme, j'ose pas dire nettoyage ethnique, mais presque, eh bien voilà, ce type doit dégager définitivement et qu'on n'entende plus parler de lui, même pas pour le reste, qu'il dégage.
Allez, on va terminer par une note un peu humoristique. C'est l'Iran. L'Iran a fait une dépêche de la part de son porte-parole du ministère des Affaires étrangères. L'Iran espère, je cite, que le gouvernement français respectera les droits de son peuple et répondra à ses démarches pacifiquement, à ses demandes pacifiquement, et que nous n'assisterons pas à la violation des droits de l'homme dans ce pays.
Les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenir, seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. C'est une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants.